J'ai une question qui peut nous aider à grandir dans la foi. Que signifie marcher sur les eaux pour le croyant d'aujourd'hui? Les Saintes Écritures vont nous donner la réponse aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je suis heureuse que vous soyez de nouveau au rendez-vous aujourd'hui. N'est-ce pas qu'on a du bon temps dans la parole de Dieu? Voici des questions qui sont peut-être les vôtres. Est-ce vrai que sans Christ, nous vivons dans la crainte? La nature humaine a-t-elle changé depuis le temps de Jésus? Quel est le seul miracle qu'on le retrouve dans les quatre évangiles? Pourquoi envoyons-nous les gens vers les psychiatres et les agences gouvernementales quand ils cherchent une solution à leurs problèmes? Où se trouvent les vraies solutions aux problèmes? La Bible dit-elle que le vrai chrétien doit être un serviteur? Est-ce que Pierre a bien fait de demander à Jésus qu'il ordonne qu'il aille vers lui en marchant sur les eaux? Est-ce que Pierre a manqué de foi quand il s'est mis à s'enfoncer dans l'eau? Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce récit? Demeurez à l'écoute. On va entendre les réponses que donne la Bible et c'est le pasteur Régent Joly qui va nous donner tout ce bon enseignement qui vient de la parole de Dieu. Mais premièrement, prions. On a beaucoup de questions, Seigneur, aujourd'hui. Et on s'attend à ce que toutes nos réponses viennent de toi seul. Enseigne-nous. On est à tes genoux, Seigneur, on est devant toi, comme des petits oiseaux avec la bouche ouverte, en attendant que tu nous nourrisses, que tu nourrisses notre âme. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, aujourd'hui, nous allons étudier le 14e chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Nous allons voir que le mouvement d'opposition se poursuit contre Jésus, même qu'il augmente. Éventuellement, Jésus sera arrêté et crucifié. Mais l'Évangile selon Matthieu démontre clairement que Jésus-Christ contrôle toutes ces circonstances. Cela se verra de plus en plus alors que nous nous approcherons de la crucifixion. Ici, nous voyons comment prit fin la vie de Jean-Baptiste et la marche que fit Jésus sur la mer de Galilée. Ils prirent la mer sans Jésus, mais celui-ci vint les rejoindre. Lisons et débutons notre lecture de Matthieu chapitre 14, versets 1 et 2. En ce temps-là, Hérode le tétraque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste! Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles !» Hérode ne douta point des miracles de Jésus, mais il était très superstitieux. Cet incident est un rappel d'événements passés tout récemment dans sa vie, ceux d'avoir fait périr Jean le Baptiste. Maintenant, Hérode identifie le Seigneur Jésus à Jean-Baptiste. Il pense que Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Si vous pensez que c'est de la superstition, vous avez parfaitement raison. Nous sommes devant un homme des plus superstitieux, qui est en plus cruel, meurtrier. Il a fait assassiner le précurseur de Christ, et maintenant il veut s'en prendre à celui-ci. En fait, Hérode était un faible, un homme vil, dépravé et buveur. Aussitôt qu'il a entendu parler de Jésus, parce qu'il était superstitieux, sa crainte l'a mis dans tous ses états. Il voulait éliminer tout ce qui est de Jean-Baptiste. Certains vont dire que nous ne sommes pas superstitieux comme Hérode de nos jours. Vraiment? Allez demander au propriétaire de votre dépanneur combien il vend de livres et de revues d'astrologie en une semaine. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui a fait sa carte du ciel, qui court après les horoscopes du jour. De plus, les religions païennes de l'Orient imprègnent notre société aujourd'hui de superstition. La race humaine est superstitieuse et nous le devenons lorsque nous nous éloignons de la parole de Dieu. C'est typique. Beaucoup de gens de nos jours qui se disent athées se tournent vers des sectes qui ne peuvent pas être plus païennes. Nous nous étonnons de voir des personnes intelligentes se laisser prendre par les sectes. Jésus avait reproché aux Juifs qui le rejetaient d'en recevoir d'autres qui viennent en leur propre nom. Aujourd'hui, nous acceptons de suivre quiconque nous fait des promesses. La nature humaine n'a vraiment pas changé. Nous pensons que nous sommes civilisés, parce que nous avons le monde à notre portée, par divers moyens tels qu'ordinateurs, télévision. Malheureusement, cela ne fait pas de nous des gens civilisés. Hérode est celui qui a fait mourir Jean-Baptiste, et ce sont des événements qui se sont produits il y a peu de temps. Poursuivons notre lecture, verset 3. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. L'arrestation de Jean est un événement passé qui se produisit à cause d'Hérodias. Hérode se faisait influencer par les autres. Ici, ce fut par Hérodias. Plus tard, ce sera par d'autres personnes. Il agissait en véritable politicien. Il faisait tout pour plaire aux autres. Verset 4. Parce que Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Jean-Baptiste avait dénoncé le péché d'Hérode. Il n'était pas un bon politicien. Verset 5. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Ici, nous voyons qu'Hérode a peur de la foule. Verset 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. Hérode était un homme charnel et vicieux qui vivait avec la femme de son frère à ce moment-là. Jean-Baptiste l'avait condamné à cause de cela. Verset 7. De sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Il s'attendait à ce que sa requête soit raisonnable et qu'elle demande quelque chose de matériel. Verset 8. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » La mère de la jeune fille portait bien le nom d'Hérode. Elle fit une requête cruelle et sadique, muée par un désir de vengeance, parce que Jean-Baptiste l'avait condamné. Verset 9. Le roi fut attristé, mais, à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Que c'est triste! Un roi motivé par les choses que ses invités pourraient penser de lui. Il n'y avait pas de crainte de Dieu chez Hérode. Versets 10 et 11. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Ce récit sadique, sordide et triste révèle l'état de la société d'alors. Jean-Baptiste fut décapité et sa tête remise à une danseuse. La nature humaine n'a pas changé. La convoitise et le meurtre imprègnent la société d'aujourd'hui. Verset 12. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Les disciples de Jean réclamèrent son corps pour l'ensevelir avec respect, amour et dignité. Le Seigneur se retira du pays, car il savait que la peur d'Hérode le mettrait dans tous ses états et qu'il posera un geste irréfléchi. Le Seigneur Jésus connaissait le cœur de cet homme, et il ne voulait pas qu'un incident se produise avant que son heure vienne. Verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Le Seigneur partit par la mer et se dirigea de l'autre côté de la mer de Galilée. La foule ne voulait pas qu'il parte, alors elle le suivit à pied en faisant le tour du lac. Nous voyons par cela que Jésus-Christ était très populaire auprès de la foule. Verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Remarquez encore une fois qu'ils lui ont emmené des malades. Jésus-Christ a guéri des milliers de personnes lors de son ministère public. Je ramène le sujet encore une fois sur le tapis afin de vous faire réfléchir. Où sont les personnes guéries par ceux qui affirment avoir le don de guérir miraculeusement comme Jésus et les apôtres? Nous en aurions trouvé facilement au temps de Jésus, par milliers. Comparer le ministère de Jésus à celui des guérisseurs est un blasphème à mes yeux. Jésus-Christ avait véritablement une puissance pour guérir, et ses miracles étaient évidents. Dans chaque ville et village, il devait y avoir des personnes guéries par Jésus-Christ. Les gens savaient que ces miracles étaient réels. Verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Les disciples se permettent de faire des suggestions à Jésus. Ils lui conseillaient de renvoyer la foule dans les villages. Verset 16. Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Le miracle de la multiplication des pains est le seul que l'on retrouve dans les quatre évangiles. Ceci nous indique l'importance du miracle. En réponse à leurs conseils, Jésus dit aux disciples de nourrir eux-mêmes la foule, chose qu'ils ne sont pas capables de faire. Verset 17. Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » N'avoir que 5 pains et 2 poissons est typique de l'état lamentable de l'Église de nos jours. Aujourd'hui, les gens disent que l'on doit renvoyer la foule car il y a des méthodes naturelles pour répondre à leurs besoins. Nous les référons à un psychiatre pour les problèmes émotionnels et au gouvernement pour les besoins matériels. Nous avons du pain spirituel, même si ce n'est que 5 pains et 2 poissons. Mais ce qui manque, c'est la puissance du Seigneur Jésus. Si nous marchions selon la puissance du Saint-Esprit, nous n'aurions pas besoin de renvoyer les gens vers les psychiatres et les agences gouvernementales. Nous ne nous rendons plus compte que les solutions aux problèmes se trouvent auprès de Dieu et non des gouvernements ou des institutions humaines. C'est pourquoi l'Église n'a plus de puissance. Écoutez le reste du texte, verset 18. Et il dit, « Apportez-les-moi. » Ah, j'aime cette réponse de Jésus. Il dit, « Apportez-moi ce que vous avez. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ce que nous avons, mais ce que nous n'avons pas. Est-ce que nous sommes disposés de lui remettre le peu que nous ayons et le laisser nous guider pour en disposer? » Ce jeune garçon devait n'avoir que suffisamment de nourriture pour un seul repas. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas suffisant pour nourrir 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus a simplement demandé qu'on les lui apporte. Verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Dans le récit de Marc, de l'Évangile selon Marc, nous apprenons que Jésus les a fait asseoir par rangées de 50 et de 100. Les gens portaient des vêtements de couleur à l'époque, et ils ont dû s'asseoir par village, et chaque village ayant des vêtements distincts des autres villages. Donc, un observateur sur une colline voisine a dû voir un bel arrangement de couleurs, comme un édredon fait de différentes pièces de tissu. Imaginez, du rouge, du brun, du bleu, de l'oranger et du pourpre. Il devait y avoir beaucoup de pourpre, car on fabriquait cette teinture dans ce coin de pays. Le Seigneur a fait asseoir les gens en groupe. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Les apôtres servirent la foule. Ils devinrent des serveurs. C'est ce que doivent être les disciples, les ministres et les évangélistes et tous les chrétiens de nos jours. Devenir des serviteurs, c'est-à-dire nourrir la multitude. Trop de gens dans les églises veulent diriger et dire comment faire les choses, mais pas assez veulent servir. Un pasteur a dit un jour, « Dans mon église, j'ai trop de chefs et pas assez d'indiens. Tout le monde veut être le président d'un comité ou être responsable d'un ministère ou avoir un poste de leader. L'église a besoin de serveurs pour distribuer le pain de vie, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est notre raison d'être. Tous les croyants devraient distribuer le pain de vie. » Verset 20. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Une grande partie de la population mondiale n'a pas mangé à sa faim, et elle s'est couchée l'estomac creux. Même au temps de Jésus, il y avait de nombreuses personnes affamées. Ces 12 paniers de morceaux qui restaient prouvent que tous ont mangé à leur faim. Verset 21. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Si l'on assume qu'il y avait autant de femmes que d'hommes, et au moins un enfant par famille, alors Jésus-Christ aurait nourri environ 15 000 personnes. Aussitôt que la foule fut nourrie, Jésus envoya ses disciples de l'autre côté de la mer, et il se retira pour prier. Versets 22 à 24. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand ils l'eurent renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et, comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Le Seigneur est sur la montagne, un excellent lieu de prière. Les disciples sont en bas, dans une barque, sur la mer de Galilée, se débattant dans la noirceur au milieu d'une tempête. Leur vie est en réel danger. C'est une image de l'état des choses de nos jours. Le Seigneur est avec le Père, assis à sa droite dans les cieux. Nous, nous sommes en bas, dans un lieu de bouleversement et de péril. J'aime le prochain verset. Lisons-le. Verset 25. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. La quatrième veille se situe entre 3 heures du matin et le lever du soleil. C'est à ce moment-là que Jésus a marché sur la mer pour rejoindre ses disciples. C'est la veille dans laquelle il viendra pour nous enlever à son retour. Christ est l'étoile brillante du matin de son Église, et il enlèvera son Église du monde. Nous ne connaissons pas la date de cet événement. Certains pensent le savoir, mais en fait, n'en savent rien. Cependant, je crois que nous sommes dans la quatrième veille. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Voici le portrait. Le Seigneur prie sur la montagne, il voit ses disciples prier dans la tempête, ramant avec peine selon le récit de l'Évangile selon Marc. Ensuite, il vient vers eux pendant la quatrième veille. Quand il le voit, il pense que c'est un fantôme. Certains vont se demander si les apôtres étaient superstitieux. Peut-être jusqu'à un certain point, mais comment réagiriez-vous si quelqu'un venait vers vous en marchant sur l'eau? Un jour, quelqu'un a dit, « Moi non plus, je ne croyais pas aux fantômes, jusqu'à ce que j'en vois un. » C'est le cas des disciples. Ils n'avaient jamais vu d'esprit, et ils pensent qu'ils sont en train d'en voir un. Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Jésus a rassuré ses disciples immédiatement. Verset 28. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Certains reprochent à Pierre d'avoir demandé d'aller vers Jésus. J'admire plutôt Pierre. Et pas seulement moi. William Carey, un missionnaire aux Indes, a dit, « Attendez-vous à de grandes choses de Dieu et tentez de grandes choses pour Dieu. » C'est ce que fit Pierre. Je crains que la plupart d'entre nous, nous nous contentons de peu de Dieu. Jésus n'a pas adressé de reproche à Pierre. Versets 29 et 30. Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et, comme il commença à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !»« Seigneur, sauve-moi !» Une prière courte, mais efficace. Poursuivons, verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Pierre a commis l'erreur de détourner son regard de Jésus. Nous vivons dans un monde où des tempêtes font rage autour de nous. C'est alors qu'il faut regarder au Seigneur Jésus-Christ. Versets 32 et 33. Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ce miracle a augmenté la foi de ses disciples. Il nous arrive de faire des pas de foi pour ensuite détourner nos regards du Seigneur pour les fixer sur les circonstances. Nous ne pouvons pas juger Pierre, car nous ne sommes pas mieux. Cependant, Dieu augmente notre foi. Versets 34 à 36. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Après la tempête, le Seigneur s'est de nouveau préoccupé de la foule. De nombreuses personnes furent guéries. Chers amis, vous avez peut-être présentement un cœur, un esprit, une âme agitée. Ne vous laissez pas abattre par les circonstances. Écoutez la voix du Maître, du Seigneur Jésus, qui a de la compassion pour chacun d'entre vous. Il dit, « Pourquoi ? Pourquoi doutez-vous, homme de peu de foi ? Levons nos têtes et fixons nos regards sur la personne de Jésus. » Écoutez à nouveau sa promesse, que nous retrouvons dans Jean chapitre 14, verset 1er, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en celui qui a le pouvoir de changer toutes choses. » Toujours l'Évangile de Jean chapitre 14, verset 27. Il nous dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous pouvons nous confier en Jésus en toutes circonstances, pour toutes choses. Voilà la foi qui produit le véritable fruit, qui se nourrit des promesses du Seigneur Jésus-Christ. Confiez-vous en lui de tout votre être. Et vous en verrez pleinement les résultats. Marcher par la foi, c'est faire confiance aux paroles de Jésus, et non à toutes ces circonstances terrestres. Le Seigneur lui-même a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 35. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission en lisant Matthieu, chapitre 15.
Merci, Régent. J'aime tellement le récit de Pierre qui a marché sur les eaux pour aller à la rencontre de Jésus. C'était un grand pas de foi de sa part de demander à Jésus qu'il ordonne qu'il aille vers lui sur les eaux. Vous trouvez pas? Moi, j'ai un petit peu le tempérament de Pierre. Des fois, je fais des affaires vite, là, j'ai un grand pas de foi, mais des fois, je m'écroule tout de suite après. Je dois demander pardon puis dire « Seigneur, sauve-moi ». Alors, si on regarde Pierre, on sait qu'il a manqué de foi ensuite, il a eu peur. Je pense que moi aussi j'aurais eu peur à sa place. Il s'est probablement mis à regarder l'eau profonde au lieu de regarder Jésus, au lieu de garder ses regards sur Jésus. Ça me fait penser à moi, justement. Parfois, j'avance dans un projet, puis j'ai confiance que le Seigneur va venir au secours de ma faiblesse, de mes incapacités, puis c'est ce qu'il fait. Mais des fois, en cours de route, je me mets à regarder les obstacles, les montagnes à surmonter, au lieu de garder mes regards fixés sur Jésus. Et plouf, je me mets à couler. Et je fais comme Pierre, je dis « Seigneur, sauve-moi !» Puis il le fait. Dieu est gracieux. Comme il est miséricordieux, patient, plein de bonté, d'amour. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Mon ami, est-ce qu'il y a une tempête dans ta vie en ce moment? As-tu commencé un projet pour réaliser qu'il est d'une envergure trop élevée pour toi? Te sens-tu stressé, inquiet? Est-ce que la panique commence à s'installer? Je connais ça, moi je passe par là des fois. Bien, arrête tout, puis demande au Seigneur de calmer ton cœur. Prie. Examine si ce projet était approuvé de Dieu au départ. Si oui, confesse l'incrédulité qui t'a amené à t'inquiéter, à paniquer. Demande pardon à Dieu. Remercie-le pour son pardon. Puis demande-lui de venir au secours de ton incrédulité. Je parle par expérience. Fais-le, ça marche. Ça marche parce que le Seigneur est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il se plaît à pardonner, à sauver. Mets ta confiance en lui. Tu l'as mise pour recevoir le salut qu'il t'a donné. Il t'a donné la vie éternelle. Mais entre-temps, il te donne tous les outils pour pouvoir travailler dans son œuvre. Et puis, oublie pas que c'est son travail qu'il fait à travers toi. Et des fois, on en prend trop sur nos épaules. On se prend peut-être pour Samson, je sais pas. Mais c'est Dieu qui est puissant, c'est pas nous. Il se plaît dans notre faiblesse, puis il aime qu'on lui demande. Il aime aussi qu'on n'attende pas là, de paniquer, mais que dès que la moindre inquiétude se montre le bout du nez, bien, arrêtons tout et allons dans la prière. Disons-lui, Seigneur, je porte à m'inquiéter un peu, là, puis je sais que ce projet est de toi. Aide-moi à l'amener jusqu'au bout pour ta gloire. Et Dieu va sûrement répondre à cette prière. Il aime prendre soin de nous, puis il aime déployer sa puissance sur notre faiblesse. On peut se glorifier de nos faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur nous.
Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous! Vous pouvez recevoir par le feu même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-LESPOIR, ou via notre site internet www.radioespoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H6H4. Ici Régent Joly qui vous dit à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.